Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeux du Mois. Je suis toujours accompagné par BenoFX. Salut BenoFX.
Salut Cyrus, bonjour les auditeurs.
Et bonne année à tous, puisque nous sommes en janvier quand vous écouterez cette chronique.
C'est vrai, bonne année. Et bon jeu surtout.
Bonne année, beaucoup de jeux. J'espère que vous avez eu tous les jeux que vous souhaitiez à Noël.
Bah nous, on n'a pas déballé les cadeaux encore quand on enregistre.
Non,
c'est dommage.
On n'a pas encore déballé les cadeaux. Mais j'espère que vous avez eu donc Scythe, King Domino, Flamme Rouge, Pierre de la Mer du Nord. Qu'est-ce qu'on leur a proposé d'autre déjà? Captain Sonar.
Et High School.
Et High School, ouais. Bah voilà, bah, s'ils avaient ces jeux-là à Noël, c'est que c'est du bon, c'est vrai. Alors aujourd'hui, et pour démarrer la nouvelle année, on a à nouveau deux jeux à vous proposer. On va vous parler de Kanagawa pour ma part, et toi BenoFX ?
Et ben on va rester dans les thèmes un peu japonisants et les jeux qui commencent par un K, puisque de mon côté ce sera Kodama.
Kodama, très bien. Allez, ben on est parti. On démarre par Kanagawa.
Je t'en prie, je t'écoute.
Alors Kanagawa, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de Bruno Catala et Charles Chevalier. Donc c'est donc comme tu l'as dit, BenoFX, c'est un jeu à thème japonisant, puisqu'en fait il va s'agir de peindre des estampes japonaises. Donc je sais pas si vous imaginez un peu le style de ces peintures, très zen, qui représentent la plupart du temps des paysages avec parfois des personnages, des animaux, ce genre de choses dessus.
La plus connue d'ailleurs, c'est la vague de Kanagawa. Hein, si vous l'avez tous vu au moins une fois, je pense que c'est une des estampes les plus connues.
Ah bah tu vois, moi je savais même pas d'où venait le nom.
Ah bah si tu tapes sur Google vague de Kanagawa, tu verras, je pense que tu as déjà vu cette image.
Ok, bah on essaiera de la mettre en illustration. Et donc Kanagawa, et bien dedans en fait les joueurs vont incarner des apprentis peintres de l'école du maître Okusai. Et le but du jeu va être donc de peindre la plus belle estampe. Donc bon, en termes ludiques, de faire le plus de points possible. Alors pour ce faire, comment ça va se passer? Il va falloir aller prendre des cours auprès du maître Okusai. Alors ça va prendre la forme suivante, c'est-à-dire qu'en fait au milieu du plateau, enfin au milieu de la table, vous allez avoir un petit plateau qui est représenté, qui d'ailleurs est fait avec une nappe japonaise, natte japonaise.
Natte, ouais, un peu comme les nattes pour faire les sushis là.
Exactement, c'est ça. Donc c'est vraiment le matériel, c'est vraiment ça, c'est vraiment une natte avec des lattes de bambou. Et donc dessus vous allez installer des cartes. Alors ces cartes ont une particularité dans le jeu, c'est qu'elles ont deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous les mettez dans un sens ou dans l'autre, sur la droite, vous allez avoir soit l'estampe, et si vous la retournez, sur la droite, vous allez avoir des compétences qui vont vous permettre de vous améliorer, et que vous allez placer dans votre atelier. Alors vous allez donc présenter des cartes comme ça sur la natte, autant qu'il y a deux joueurs. Et puis les joueurs vont à ce moment-là avoir deux possibilités, soit prendre une des colonnes qui est présente, du coup au début forcément c'est une seule carte, soit passer et attendre donc une deuxième distribution et l'installation d'une deuxième ligne de cartes. Donc là il y a un premier choix qui va s'établir entre je me dépêche de prendre une carte parce qu'elle m'intéresse, je vais vous expliquer pourquoi elle peut particulièrement vous intéresser, ou attendre et avoir plus de cartes. Donc on va faire comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs soient servis, et avec un maximum de 3 cartes. Et dès qu'un joueur choisit de prendre une colonne, il va donc placer les cartes dans son atelier. Et donc, soit côté estampe, où il va donc peindre sa toile, soit côté atelier, où là, il va améliorer ses compétences. Alors, les compétences, c'est quoi? C'est... Alors, compétences au sens large du terme, mais il faut le prendre, puisque ça peut être en fait du matériel, c'est-à-dire que ça peut être de la peinture. Donc, il y a 4 couleurs dans le jeu, qui vont représenter en fait les différents paysages possibles de l'estampe. Il y a jaune, vert, bleu et noir. Si
oui, et ça correspond plus ou moins à des paysages, je crois, c'est ça. Hein, ça correspond.
Voilà, c'est ça. En fait, le noir va correspondre à la montagne. Le jaune, je crois, c'est une sorte de prairie. Le bleu, c'est la mer. Qu'est-ce que j'ai dit? Le noir, c'est la montagne. Le vert, ça doit être la forêt,
je crois,
un truc comme ça. C'est exactement ça. J'ai pris les règles sous mes yeux. C'est l'océan, le bleu, très exactement. Voilà. Alors sachant qu'il peut y avoir des couleurs joker, c'est-à-dire que en fait cette couleur est n'importe quelle couleur du jeu. Et puis vous allez également pouvoir gagner des pinceaux. Alors je vais expliquer un peu à quoi ça sert et de divers effets comme ça. Côté estampe, pour peindre l'estampe, il va falloir avoir la bonne couleur dans son atelier.
Avec un pinceau dessus.
Avec un pinceau dessus, exactement. C'est là la petite subtilité aussi un peu du jeu, c'est que il va falloir gérer correctement les couleurs qu'on a dans son atelier et les pinceaux. Parce qu'en fait, donc par exemple, si je veux peindre un paysage de forêt, donc il me faut du vert. Donc très bien. Admettons que j'ai du vert dans mon atelier, je pose mon petit pinceau sur le cercle vert qui représente donc le fait que je vais tremper mon pinceau dans la peinture verte. Évidemment, c'est pas si simple que ça de changer de couleur, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir d'un seul coup peindre du vert puis peindre du noir. À chaque tour de jeu, avec un pinceau, je peux peindre une seule couleur. Donc si j'ai deux pinceaux au début du jeu, parce que c'est le cas de tout le monde, tout le monde a deux pinceaux au début du jeu, au maximum je vais pouvoir peindre deux couleurs différentes ou deux couleurs identiques. Si je veux peindre une troisième couleur dans le même tour, donc si admettons que j'ai gagné trois cartes et je veux les peindre toutes les trois, il faut forcément que j'ai trois pinceaux. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai amélioré mon atelier avec la capacité d'avoir trois pinceaux. Mais il suffit pas d'avoir trois pinceaux, il faut également que les trois pinceaux soient déjà dans les bonnes couleurs. Sinon, il va falloir avoir une capacité à déplacer les pinceaux. Bref, voilà, vous avez compris qu'il y a pas mal de paramètres qui entrent en ligne de compte. Déjà rien que là. Et il y en a d'autres qui vont intervenir. Côté estampes, donc il faut les bonnes couleurs pour peindre l'estampe. Bien. Il faut également, pour faire un maximum de points, c'est du côté de l'estampe que ça va se passer. Il y a plusieurs systèmes qui rentrent en ligne de compte. Déjà, plus on a de cartes, plus on va marquer de points. Voilà, tout simplement, une carte, un point. Jusque là, c'est plutôt simple. Après, il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. D'une part, les saisons. Chaque carte, en fait, a non seulement un paysage, mais en plus une saison. Donc, les saisons, là, je vous la fais pas, il y a 4 saisons. Et elles sont toutes les 4 dans le jeu. Et il n'y en a pas une de plus, ça tombe bien. C'est plutôt thématique.
Si, il y en a une de plus.
Il y en a une de plus, comment ça?
Ah oui, il y a une saison bonus qui remplace n'importe quelle saison. Enfin, c'est pas vraiment une saison.
Ah,
mais...
alors c'est pas une saison, ouais. Effectivement. Il y a des
orages.
Alors, ouais, effectivement, on va y venir. Donc, il y a les 4 saisons, ok. Et il y a effectivement un système joker, en fait, où on va placer un orage qui, en fait, plus thématiquement, va simplement masquer la saison. En fait, grosso modo, il y a un orage. Un orage, il peut y en avoir en toute saison. Et donc, effectivement, ça va permettre d'être un joker. Donc, effectivement, t'as raison, il y a entre guillemets une 5e saison dans le jeu. Alors à quoi ça sert ces saisons? À la fin du jeu, on va regarder notre plus grande succession de saisons identiques dans notre estampe. On va avoir autant de points que de cartes attachées à cette saison de façon continue. C'est-à-dire que si j'ai deux étés, puis quatre hivers, puis un automne à la fin, je vais compter mes quatre hivers. C'est ça que j'ai dit? Je sais même plus ce que j'ai dit. Les quatre hivers, ça fera 4 points. Voilà. Il faut qu'il soit bien consécutif.
C'est la suite adjacente la plus grande qui compte.
Voilà. Ah, tu l'as beaucoup mieux dit que moi, c'est bien. Donc ça va permettre de mettre des points. Et le dernier élément qui va permettre de mettre des points, le dernier élément majeur, on va dire, pour pas rentrer trop dans les détails, c'est un système d'objectifs, alors qu'ils ont appelé diplôme dans le jeu, plus thématiquement. Les diplômes, c'est quoi? C'est tout un ensemble effectivement d'objectifs qu'il va falloir essayer de réaliser dans la partie pour obtenir des points. Alors ça peut être des capacités qu'on va accumuler dans notre atelier, comme je disais tout à l'heure, le nombre de pinceaux, le nombre de capacités à déplacer ces pinceaux. Et puis ça peut aussi être des choses plutôt côté estampe, et c'est là qu'il y en a plus. Et côté estampe, ça va être soit d'avoir un certain nombre de fois un paysage donné dans l'estampe, soit d'avoir certains items, certains personnages en fait, certains animaux, un certain nombre d'arbres.
Oui, parce que je sais pas si tu l'as dit, mais effectivement les cartes ont des thématiques un peu différentes. Il y a quatre grandes thématiques.
Voilà.
Savoir la nature, enfin les arbres du coup, les personnages, les bâtiments et les animaux.
Exactement. Donc ce qu'on va potentiellement retrouver sur les cartes elles-mêmes.
Voilà. Et sur les objectifs aussi, donc certains vont être dépendants de ces thématiques-là.
Voilà, exactement. Donc en fait, ouais, au final, sur les estampes, il y a trois paramètres. Il y a le paramètre du paysage qui les représente, la saison associée à ce paysage, et puis éventuellement l'illustration qui est dessus, c'est-à-dire un personnage. Donc on a dit des arbres, des habitations, ou encore...
Des animaux.
Des animaux, voilà. Et les objectifs, comment ils fonctionnent? Là, on va retrouver un système qu'on avait pu voir dans Augustus.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est un système de stop ou encore, et de premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnages, il y a trois objectifs différents qui existent. Un premier objectif qui propose d'avoir deux personnages différents dans son estampe. Un deuxième qui propose d'en avoir trois différents. et un dernier un peu particulier qui propose d'en avoir trois identiques. Et en fait, dans la partie, je ne vais pouvoir avoir qu'un seul de ces trois objectifs-là. Donc les objectifs, ils seront représentés d'une même couleur, ces trois objectifs, pour bien montrer qu'ils forment un lot commun. Et donc, je ne pourrai en acquérir qu'un seul dans la partie. Et surtout, si j'en laisse passer un, et c'est là qu'on reprend un élément des règles qui était présent dans Augustus, si j'en laisse passer un, je ne peux plus y prétendre plus tard. Mm. Il y a une sorte un peu de couperet, c'est là qu'il y a une petite notion de stop ou encore. Est-ce que je vais, si je prends un autre exemple, par exemple pour les arbres, le premier objectif c'est 3 arbres. Très bien, j'ai mes 3 arbres. Est-ce que je continue à essayer d'avoir d'autres arbres pour en avoir donc 4 ou 5 pour les 3 objectifs qui sont associés à l'arbre, ou bien est-ce que je m'arrête tout de suite, je prends tout de suite ce premier gain assuré,
mais qui sera moins intéressant en point de victoire,
évidemment moins intéressant, puisque présentement celui-ci fait 3 points pour 3 arbres, alors que si on a 5 arbres on a 7 points. Et là, c'est là aussi qu'il y a un peu d'interaction avec les autres joueurs. C'est là d'ailleurs que se crée l'essentiel de l'interaction avec les autres joueurs. Mmh. C'est sur ces objectifs. Parce qu'en fait, pourquoi du coup prendre une seule carte sur la natte? Et du coup, hop, on revient au tout début de mon explication. Pourquoi prendre une seule carte sur la natte? Parce que peut-être ça va me permettre de réaliser un objectif avant un autre joueur.
Oui. Voilà. C'est vrai que quand t'as deux joueurs qui ont deux arbres chacun, par exemple, et qui ont refusé le premier niveau, le suivant, ça va être un peu, c'est vraiment la course, en fait, pour l'objectif. Il va vraiment y avoir un duel entre ces deux joueurs pour récupérer cette carte objectif.
Et ça mène vraiment, vraiment pas mal de tension dans le jeu. Pour avoir refait une partie, par exemple, hier, où j'ai un peu couru tous les chevaux en même temps.
Ouais.
j'ai essayé en même temps d'avoir les personnages, les habitations et puis peut-être un peu les animaux et au final j'ai rien eu.
Trop gourmand.
Oui, à force de courir plusieurs chevaux, on n'en attrape aucun. C'est ce qui m'est arrivé typiquement hier, où je me suis fait coiffer sur le poteau, sur les différents objectifs par différents joueurs, l'un après l'autre, quoi. Et peut-être que si je m'étais contenté finalement de prendre les premiers niveaux d'objectifs que j'aurais pu avoir, peut-être que j'aurais fait beaucoup plus de points et oui. Peut-être même que j'aurais remporté la partie, quoi.
Mm.
Voilà. Donc, je trouve ce jeu vraiment intéressant, parce qu'il y a de l'interaction, il y a pas mal de paramètres. Alors, il y avait beaucoup de paramètres. Sur une première partie, très sincèrement, moi je trouve c'est beaucoup trop d'objectifs pour une première partie. Du coup, on est un peu perdu, on n'arrive pas à suivre tous les objectifs. Il n'est pas rare que on en ait réalisé un et puis on l'a raté. On s'en est même pas rendu compte en fait qu'on l'avait réalisé. Je pense souvent c'est le cas des. Enfin, chez nous, c'est souvent le cas des paysages.
Ouais.
Je sais pas, toi, t'as déjà joué, toi ?
Ouais, j'ai déjà joué. C'est vrai que sur les premières parties, en fait, à chaque fois que quelqu'un pose une carte, c'est bien de faire une pause et vérifier s'il y a un objectif qui est potentiellement rempli. C'est vrai que des fois, on oublie un peu de... En fait, t'es pas obligé de le prendre, mais de dire si tu le prends ou pas, parce que ça, c'est important. Et il y a rien qui matérialise ça, effectivement. Il y a rien qui matérialise le fait que tu as passé une carte. Du coup, des fois, c'est un peu si t'as oublié un peu un objectif, tu te retrouves 3 tours après à te dire ah zut, j'aurais dû prendre ça. Et c'est le seul petit point effectivement qui est un petit peu dur à gérer, surtout sur les premières parties, on n'y pense pas forcément beaucoup. Ouais.
Mm-hmm. C'est pas tant le fait de marquer que t'as passé quelque chose ou pas, parce qu'à la limite, simplement, si ce tour-ci t'as pas posé l'item qui correspond, c'est évident que tu l'as passé le tour d'avant, quoi.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais comme en première partie, des fois, tu oublies de passer ou de valider, tu vois. C'est juste t'as la condition remplie et du coup tu la passes, enfin tu vois, tu la,
oui,
tu oublies de la prendre en compte,
t'as pas checké les objectifs, quoi.
Voilà, donc tu te retrouves 2 tours après à dire ah bah zut, là j'avais le truc rempli il y a 2 tours. Bon, c'est, oui, mais je suis d'accord avec toi sur ce côté là. Ouais. c'est peut-être l'élément le plus fastidieux et le plus compliqué à gérer sur des premières parties. Ouais.
Autrement, le jeu bénéficie d'un matériel qui est absolument époustouflant. Entre la natte qui fait vraiment très très set japonais, et les petits pinceaux qui sont représentés par des pièces en bois avec vraiment le pinceau trempé dedans.
Dans un pot en terre cuite, c'est un espèce de pièce où. On a un petit pinceau dans un pot en terre cuite. Donc on voit pas les poils du pinceau, mais on a le manche du pinceau qui dépasse d'un petit pot.
J'imagine que c'est une sorte de pot de pinceau sûrement traditionnel.
Oui.
Je vais pas les vérifier, mais bon, j'imagine qu'ils sont allés à fond dans la thématique. Avec des illustrations. Alors on l'a pas cité, c'est Jade Moche qui a réalisé donc les illustrations de ce jeu. Et alors si je peux me permettre le jeu de mots de son nom de famille, c'est pas moche du tout. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à des estampes japonaises quoi. Enfin, je suis pas spécialiste, hein, mais en tout cas pour un néophyte comme moi, ça y ressemble.
Ouais, c'est très proche de ce qu'on connaît. En tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas, enfin moi non plus, je suis pas un expert en estampes japonaises, mais c'est vraiment oui, c'est vraiment très proche de l'image qu'on se fait de ces estampes japonaises. Ouais. C'est très 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 beau. Moi aussi, je suis assez fan des illustrations. Ouais.
Que dire d'autre ? Alors moi, je sais qu'on avait Merlin, on a touché un mot pendant le retour des Sun sur notre le numéro de retour des Sun. Donc Merlin en fait proposait d'utiliser des tapis
individuels, ouais. Il parlait
des tapis individuels. Alors il faut avouer que c'est vrai que la manipulation est pas évidente parce qu'en fait il faut
passer en dessous à chaque fois la carte, la nouvelle carte, la passer en dessous.
Il faut mettre les cartes les unes en dessous des autres en fait. On peut pas, en fait, on les pose pas les unes par-dessus les autres, on les pose les unes par-dessous les autres. Ouais. Ce qui fait que, en particulier côté atelier, il faudra que vous regardiez les illustrations si vous connaissez pas le jeu. Il faudra que vous regardiez un peu les photos qu'on va mettre sur le billet. La partie estampe est quand même plus importante. Du coup, quand on pose une carte côté atelier, il faut glisser l'ensemble de l'estampe en dessous et c'est pas évident à manipuler. Simplement soulever la carte de la table, passer l'autre en dessous, ça a tendance un peu à tout bouger. Et moi, pour avoir un grand tapis, effectivement, que je peux poser sur l'ensemble de ma table, j'avoue que c'est déjà pas forcément évident avec le tapis.
Ouais, ça glisse.
Mais sans le tapis, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est pas très pratique.
Mmh. Ouais, après, ça dépend les tables. Et effectivement, ça dépend si les cartes sont, enfin, si la carte adhère un petit peu à la table, à la surface, ça devient un petit peu pénible. Moi, j'ai joué 2-3 parties sur une table, enfin, sur des tables qui était plutôt glissante, donc ça passe assez facilement en dessous. Après, bon, l'autre problème de la table glissante, c'est que pour avoir un atelier voilà bien droit, bien aligné, que les estampes soient bien alignées, ça glisse un petit peu. Ouais. Mais c'est pareil un peu sur le tapis, je suppose que du coup ça facilite, mais ça glisse un petit peu plus.
Ouais, ça glisse un petit peu, oui. Ça glisse un peu, mais ça me gêne pas trop parce que t'arrives à réaligner. Et on a vraiment envie, en fait, de les aligner correctement, surtout côté estampe, parce que c'est vraiment chouette, quoi. L'image, elle est faite pour matcher. Et du coup, ça fait vraiment une belle estampe à la fin.
Ça fait vraiment un paysage continu, ouais.
Voilà. On a le sentiment du devoir accompli à la fin de la partie. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça participe au plaisir du jeu. Même si on perd à la fin, on a fait une belle estampe, quoi. C'est comme je sais plus qui disait ça, d'Agricola, qui disait que ça avait cet avantage là en fait, les gens aimaient y jouer même s'ils y perdent, en fait. Même si tu perds Agricola à la fin, t'as le sentiment d'avoir fait ta ferme, trimé comme un malade et t'as réussi à faire ta ferme et tu vois t'as
tes champs, ouais, t'as tes boutons, c'est ça qui est rigolo. Elle est vraiment devant toi visuellement, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup il y a un peu ce même sentiment dans Kanagawa. Pour rester sur c'est des petits griefs, attention, hein, c'est vraiment des petits griefs qu'on indique. Il y a des petits flous un peu dans la règle, je trouve. Ça mériterait une petite FAQ. Il y a pas grand chose, je pense, à mettre dedans, mais il y a quelques éléments. Hier, j'ai demandé sur Twitter la confirmation que le jeu s'arrêtait bien à 11 cartes estampes et pas à 11 morceaux d'estampes. Parce qu'en fait, on démarre avec une tuile de départ,
oui,
qui représente déjà un bout d'estampe. Et dans les règles, il est dit que cette tuile de départ, elle compte dans le
comme
nombre
carte,
de cartes qui marquent des points.
Quand tu comptes les points, ouais.
Voilà. Et alors, elle compte là, mais elle ne compte pas dans le nombre de cartes qui mènent à la fin de partie. Donc c'est un peu ambigu.
Ouais, moi je l'avais compris comme ça, hein, que ça comptait pas. Je sais plus.
J'avais compris comme ça aussi, mais du coup j'avais quand même toujours ce doute qui persistait.
T'avais le doute, ouais.
Voilà. Du coup j'ai préféré demander confirmation. Et donc Bruno Catala a répondu sur Twitter en disant. Non, c'est bien 11 cartes, et du coup avec la 12e, enfin avec la première tuile donc qui représente aussi une estampe, ça forme les 12 mois de l'année. Ça forme donc 12 morceaux d'estampe qui représentent les 12 mois de l'année. Voilà.
Par contre, tu peux en avoir plus que 12, non ?
Tu peux en avoir plus que 12, mais ça marque la fin quand t'arrives.
Parce que dès qu'il y en a un qui a plus de 12, en fait, on termine le tour et c'est terminé. C'est la condition de fin de partie.
C'est une des conditions. L'autre, c'est de vider le paquet de cartes, en fait.
Ouais.
J'y suis encore jamais arrivé personnellement, mais
moi non plus sur les quelques parties que j'ai fait. Mais du coup, ouais, voilà, on peut se retrouver en fait potentiellement avec 13 cartes de posée. Enfin, moi, c'était sur ma dernière partie, j'avais 10 cartes de posée, Et donc j'ai pris une colonne de 3 cartes sur la dernière manche et je me suis retrouvé du coup j'ai pu placer les 3 dans mon estampe. Et du coup je me suis retrouvé avec 13 cartes à la fin.
Ouais, on peut justement doser un peu la fin de partie comme ça quand on est devant en nombre de cartes dans l'estampe. Si on sent qu'on n'est pas devant au point, on peut temporiser, dire bah ok, je vais pas peindre ce tour-ci. Du coup, je vais essayer de peindre plus au tour d'après, et donc améliorer peut-être mes compétences côté atelier et essayer de vraiment d'aller chercher ce qu'il me faut sur l'estampe. Après, c'est pas forcément gagné d'avance, mais voilà quoi. C'est, enfin, je sais que j'ai essayé hier, ça a pas marché, mais voilà.
Ouais, après, dans la stratégie aussi, j'ai senti que quand tu es pas dans les premiers joueurs, c'est-à-dire que, enfin, surtout si les premiers joueurs prennent des cartes directement. Toi, t'as tout à fait intérêt à prendre
passer.
Plus, quoi.
Oui, enfin, bien sûr.
À passer et puis à laisser les colonnes se remplir.
Oui, bien sûr.
Puisque même si tu peux pas les placer en estampe, tu peux toujours les placer dans ton atelier. Et du coup, tu peux avoir un atelier assez garni qui te permet de faire plus de choses par la suite.
Ah, exactement. Alors, sachant qu'on peut jamais avoir plus d'une carte en bonus, en fait, par rapport aux autres joueurs. C'est pas... admettons qu'on joue à 3, d'accord, les deux premiers joueurs prennent tout de suite...
Oui.
Au premier tour.
Nous, on peut passer qu'une seule fois.
Ouais, voilà, on peut passer qu'une seule fois.
Oui, on peut pas aller jusqu'au bout de la colonne. Oui, parce que c'est ça. C'est si tout le monde prend, moi je peux passer une fois, mais je peux pas passer tout seul en fait.
Oui, c'est ça.
Si je suis tout seul à devoir prendre, je peux pas repasser.
Ouais. Exactement. Voilà, je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre. Alors, la config à deux paraît pas être la meilleure. J'ai fait qu'une seule partie à deux, c'était la première que j'avais faite en plus. Donc,
joué à deux encore hein, du coup.
Par rapport à ce que j'ai dit au début avec le nombre d'objectifs, etc. Forcément, il y a moins d'interactions, il y a moins de courses sur les objectifs. Donc, je pense que c'est pas la meilleure configuration. Malgré que j'en ai fait qu'une partie dans cette config. Mais 3-4, j'ai joué plusieurs fois à 3 et à 4. Je pense que je dois en être à, je sais pas, 6 ou 7 parties en tout. Donc, peut-être 3 fois les deux configurations. Non, là, franchement, ça marche bien. Et moi, je trouve vraiment le jeu intéressant. Dans une durée contenue, quand les joueurs jouent relativement vite, on peut jouer en 30 minutes. Le jeu est annoncé à 45 minutes. 45 minutes, c'est 45 minutes avec mon beau-père. Oui, c'est vrai, ça fait 45 minutes. Mais sinon 30 minutes, ça rentre. Franchement, on peut...
Oui, non, mais après, sur les premières parties, je pense qu'il faut compter bien 45 minutes.
Oui, pour... Voilà,
parce que c'est l'appréhension des objectifs qui est pas forcément évidente sur les premières parties.
Là, c'est ça. On prend le temps. Ça permet de prendre le temps de... Voilà, une fois que chacun a ramené les cartes dans son atelier... donner des petits conseils aussi et puis bien checker les objectifs,
les conditions,
est-ce que t'as rempli une partie des objectifs ou pas.
Ce que t'as pas dit aussi, c'est que effectivement donc sur la natte, on va poser une carte, enfin il y a trois lignes du coup,
c'est ça.
On va poser une carte par personne sur la première ligne, donc à chaque fois soit on prend une carte, soit on passe, et si on passe, on va remplir la deuxième ligne pour les cartes qui sont restantes. Et il y a certaines cartes en fait qui sont posées face cachée. C'est-à-dire que toutes les cartes sont pas face visible, avec les effets qu'ils auront, enfin les avantages qu'il peut y avoir dans les ateliers ou sur les stamps. Donc certaines sont placées face cachée, et en fait sur le dos de la carte, on voit quand même s'il s'agit si le thème principal de l'estampe est un personnage, est un bâtiment, est un arbre ou est un animal.
C'est ça.
Ouais. On a cette information au dos des cartes.
Sachant que c'est pas obligé qu'il y ait effectivement le personnage ou l'arbre ou etc. Non. Derrière la carte, mais
oui, il y a des cartes vides. Enfin, il y a des cartes où il y a pas de dessin autre que le paysage.
Ouais, c'est
oui.
Ça. Cela dit, s'il y a pas donc le personnage, par exemple, il y a toujours un joker en fait derrière. C'est-à-dire que soit la saison est un éclair, soit le côté atelier, on a un joker de peinture. Je crois que j'ai remarqué ça. C'est peut-être pas toujours le cas, mais globalement c'est essentiellement ça quoi.
Attends, là j'en ai une, j'ai les cartes en main là, j'ai quelques
cartes.
Moi
aussi je suis en train de regarder, mais moi c'est ce que j'avais vu hein. C'est soit t'as un éclair côté estampe, soit tu as un joker de peinture côté atelier.
Ou alors là j'en ai un où t'as ni l'un ni l'autre. Par contre, en fait oui, on n'a pas dit, côté atelier tu as d'autres jokers aussi, enfin tu peux avoir d'autres capacités. En fait, normalement, tu es obligé de poser directement les cartes que tu prends sur la natte. Tu dois les poser directement soit dans ton estampe, soit dans ton atelier. Donc, il y a des cartes qui vont te permettre d'avoir un joker, de pouvoir garder des cartes en main d'un tour à l'autre. Tu as aussi un joker qui te permet en fait de devenir premier joueur au tour d'après.
Oui.
Et donc là, j'ai une carte. Effectivement, il y a pas d'animal. C'est une carte animale. Il y a pas d'animal dessiné dessus. Et le joker d'atelier, du coup, c'est de récupérer le jeton premier joueur.
Oui, mais t'as un éclair dans les stamps.
Non, là, dans les stamps, j'ai pas d'éclair. C'est l'automne. Non.
Ah ouais.
Non, c'est pas systématique a priori.
D'accord.
Par contre, si je la mets en atelier, en fait, il y a aussi des points bonus sur certains ateliers ou sur certains estampes. Il y a des cartes qui valent déjà un point, qui sont des points bonus.
C'est les cartes pas terribles, en fait, ils ont rajouté un point ou deux dessus.
Des points bonus.
En gros.
Et des cartes justement trop puissantes aussi, tu as des points négatifs. Les cartes joker de couleur, là, les cartes qui valent pour n'importe quelle couleur, il y a moins deux points bonus, je crois.
C'est ça, exactement. Là, je trouve qu'on sent quand même plutôt bien la patte des deux auteurs. Alors, je sais pas si ce que je vais dire est vrai, mais à mon avis, Charles Chevalier est sans doute à l'origine de l'idée des deux effets de cartes différents, le côté stamp et le côté atelier, la
dualité des cartes.
La dualité des cartes, c'est pas mal. et après, je parlais d'Augustus pour les objectifs. C'est pas anodin, en fait. Si je dis pas de bêtises, Bruno Catala avait travaillé en tant que consultant sur Augustus.
Oui.
Et il n'est pas à exclure que c'est lui qui ait eu cette idée-là et que du coup il l'ait reprise dans ce jeu-là. Donc on trouve vraiment deux aspects en tout cas marquants de ces deux auteurs. Un côté mécanique pour Charles Chevalier avec l'aspect double des cartes et puis le côté des objectifs de Bruno Catala, d'ailleurs qui est quelqu'un qui est un auteur qui apprécie pas mal ce système d'objectifs déjà de base. Et en plus à ce système d'objectifs couplé avec du stop ou encore qu'il avait utilisé déjà dans Augustus qu'on retrouve du coup ici. Je trouve même en fait en termes de game design le jeu est intéressant parce qu'il donne vraiment il est assez marquant je trouve pour parler de ces deux auteurs en fait. Je trouve ça assez singulier.
Bon, tout ça c'est ce que tu penses du coup à vérifier.
Je suis pas allé leur demander.
À vérifier auprès des auteurs pour vérifier ça.
Ils pourront confirmer ou infirmer.
Ouais. Et ouais effectivement bah après je sais pas du coup si tu évolues un petit peu de ton côté ou si c'est les auteurs qui évoluent, mais c'est vrai que t'as répété plusieurs fois que t'étais pas forcément un grand fan de la production de Bruno. Et là c'est vrai que ça fait deux jeux de suite que tu apprécies plutôt pas mal hein, entre King Domino et Kanagawa.
Oui, c'est vrai.
Alors, tu penses que c'est parce que c'est quoi du coup la différence par rapport aux autres jeux que t'avais pas forcément aimé chez Catala? Enfin, c'est quoi le petit truc en plus ou la petite nuance qui fait que ceux-là tu les apprécies un petit peu plus?
Alors, enfin, clairement, il y a l'aspect mécanique. Par exemple, donc pour Charles Chevalier, je sais qu'il avait travaillé sur Monte Cristo, voilà. Enfin, il y avait un système de planification avec des billes qui était intéressant, mais après le reste du jeu était assez creux, selon moi. Je trouve le reste du jeu assez creux. Donc voilà, si je parle plutôt du côté de Charles Chevalier, toi, je repense à ce jeu-là qui clairement mettait en avant une mécanique vraiment intéressante et à côté de ça, la réalisation finale n'était pas super pertinente pour moi. De l'autre côté, Bruno Catala, alors je pense que moi aussi j'ai évolué aussi de mon côté parce que j'étais quand même plutôt joueur de gros jeux avant.
Très gros jeu, ouais.
Bruno Catala n'a jamais été un auteur de très gros jeux.
Non, clairement pas.
Voilà, à part Five Tribes récemment. Que je trouve bien Five Tribes, mais vraiment trop paralysis analysis pour moi. Comme je suis sujet à ça, c'est un peu compliqué pour moi de sortir ce jeu-là sans y passer 2 heures quasiment moi tout seul. J'avais beaucoup apprécié justement dans Augustus ce système d'objectifs, je le trouvais vraiment très pertinent. Et du coup le retrouver là avec une mécanique intéressante de double utilisation des cartes. Et puis il y a pas que la double utilisation des cartes. Hein. Enfin cette double utilisation-là, elle provoque beaucoup de choix dans le jeu.
Oui.
Mais il y a aussi le choix sur qu'est-ce que je vais mettre dans mon estampe. Est-ce que je vais essayer de faire une saison continue, sachant que ok ça fait des points, mais c'est pas non plus ultime. Et puis surtout ça va quand même beaucoup me brider ensuite dans le reste de la partie. Le jeu propose vraiment beaucoup de choix en fait.
Ouais, ouais, la gestion des pinceaux qui est assez intéressante aussi, parce qu'en fait, on va pouvoir en fonction des bonus qu'on a dans l'atelier, et par défaut au départ, on va pouvoir déplacer un ou plusieurs pinceaux au début de notre tour, ce qui va pouvoir, enfin durant notre tour même, ce qui va pouvoir un peu changer les choses. Et puis le système un peu de draft qui est un peu, c'est un draft un peu détourné finalement, le fait de placer des cartes et de soit la prendre tout de suite, soit...
C'est une sorte de draft visible, on peut dire, enfin ouais, je sais pas si c'est...
Ouais, ouais.
Ouais, ce serait finalement, c'est presque du système de pose d'ouvrier, mais bon, enfin bref, je sais pas si on va réussir à mettre un nom très net sur ce mécanisme, mais oui, enfin il y a du choix au milieu sur la natte, il y a du choix sur ce qu'on va mettre dans notre atelier, entre je mets dans l'atelier, je peins l'estampe, du choix sur est-ce que je pars sur tel ou tel objectif, est-ce que je me mets un joker mais ça m'enlève 2 points, est-ce que je fais la saison, est-ce que je la fais pas, il faut faire des choix dans ce jeu, systématiquement. On récupère une ou deux cartes, et quand on a deux cartes, on a systématiquement est-ce que je mets l'une, je mets l'autre, est-ce que j'arrive à mettre les deux. C'est ça qui est aussi intéressant dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu il tient en 30 minutes, je le disais, et il propose vraiment beaucoup de choix. Après, il est pas exempt de hasard, on l'a pas dit, mais attention, il y a quand même un peu de hasard dedans, parce que quand on attend un truc et que ça tombe pas, parce que c'est au bout de la pile, ben voilà, on peut être un peu frustré. Mais ça dure une demi-heure. Hier, j'ai fait jouer mes beaux-parents au jeu. La première partie était un peu compliquée pour appréhender les objectifs, mais j'aurais dit derrière, vous voulez en faire une deuxième. Voilà, on a fait une deuxième partie. La première partie a duré 45 minutes, la deuxième a duré une demi-heure.
Non, c'est un jeu qui est, enfin, pour donner mon avis, parce que j'ai un petit peu joué aussi. Alors, j'ai pas encore fait. Je te dis, j'ai fait 2-3 parties. C'est un jeu que j'aime vraiment bien. Déjà, il est très très joli, donc ça aide aussi à l'immersion. Et puis la mécanique est vraiment assez maline. C'est un jeu qui est assez riche, qui plairait même à des gens qui sont un peu plus gamers, sans être très compliqué en fait, sans être hyper compliqué à expliquer. Il y a juste peut-être l'aspect, effectivement, comme on le disait au début, l'aspect objectif qui est un petit peu plus longue à intégrer, surtout pour des gens qui jouent pas beaucoup ou pas du tout. Mais sur le reste,
et encore, c'est pas que c'est compliqué à intégrer, c'est qu'il y en a beaucoup en fait.
Ouais.
C'est vraiment ça.
Il y en a beaucoup des différents.
C'est difficile on sait pas où partir au début, quoi.
Ouais. Mais voilà, c'est un jeu qui est riche sans être complexe au niveau de l'explication et au niveau des premières parties. Enfin, à chaque partie, on prend une carte, on la place soit à l'atelier, soit à l'estampe, on regarde si on a les conditions pour le placer sur l'estampe, sinon on peut éventuellement réarranger son atelier. Puis après, voilà, faut essayer d'optimiser en fait tout ça, quoi.
Bah, moi, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce jeu. Je sais pas si toi, t'as encore d'autres choses à ajouter.
Pas spécialement.
On va juste faire la petite fiche signalétique du jeu. Du coup, Kanagawa, donc c'est un jeu, on le rappelle, de Monokatala et Charles Chevalier. C'est pour 2 à 4 joueurs. On vous le recommandera, enfin en tout cas, personnellement, je vous le recommanderais plutôt à partir de 3 joueurs. Même si ce sera pas désagréable à 2. Hein. Pour des durées de partie de 30 minutes, alors enfin, annoncé 45 minutes, à partir de la deuxième partie, pour moi, ce sera 30. À partir de 10 ans, et il est donc chez Philibert à 22,50€, édité par Yellow, pardon, les pauvres, je les ai pas cités, et avec un travail vraiment d'édition absolument impeccable.
Et des magnifiques illustrations, ouais, de Jade Moche.
De Jade Moche, merci. Et 22,50€ chez Philibert. Alors, actuellement indisponible au moment où on parle, j'ose espérer qu'il sera à nouveau disponible quand vous entendrez la chronique.
Victime de son succès, un de plus.
C'est ça, encore un. Ah, et puis là, on est en période avant Noël, donc bon, c'est peut-être ça qui pique aussi peut-être la chose, quoi.
Voilà. Ouais.
Donc voilà pour Kanagawa. On peut désormais passer, si tu le souhaites, si tu le veux bien, à
Kodama. Pas de soucis. Donc, alors vous verrez, j'ai choisi aussi Kodama quand j'ai su que tu allais présenter Kanagawa. Déjà pour le côté japonais, parce que c'est aussi un jeu à thématique un peu japonaise, enfin carrément japonaise même. Mmh. Et en plus, c'est un jeu qui peut avoir un peu quelques similitudes en fait. Alors c'est pas tout à fait les mêmes mécaniques, c'est pas tout à fait le même résultat à la fin. Mais le but du jeu, ça va être aussi de récupérer des cartes. Et dans Kodama, on va en fait faire pousser un arbre. On va partir d'un tronc et chaque carte qu'on va rajouter, ça va être des branches de l'arbre. Et pareil, t'as aussi cet effet visuel qui est très sympathique et qui et voilà, dans la construction, ça me fait penser aussi un peu à Kanagawa. À la fin, tu as ton arbre devant toi.
Du coup, tu vas glisser tes cartes les unes en dessous des autres, pareil pour faire les branches, quoi, c'est ça?
Non, là, tu vas les mettre les unes sur les autres.
Ah, du coup, c'est
moins
pratique.
Un peu moins chiant. C'est ça. Donc les Kodama, si vous savez pas ce que c'est, les Kodama, c'est des petits esprits des arbres justement. C'est des yokai pour ceux qui connaissent un peu la mythologie japonaise. Donc les yokai, c'est des esprits qui des esprits de différentes choses. Et donc les Kodama, c'est ces petits yokai spécifiques aux arbres. Et bon, pour ceux qui connaissent Miyazaki un petit peu, qui aiment bien Miyazaki, qui ont vu Princesse Mononoke, vous savez, c'est ces petits êtres blancs qui apparaissent dans la forêt là, qui tournaient la tête.
Ah voilà, oui, d'accord.
Ça, ça c'est des Kodama du coup. C'est les petits esprits des arbres.
Okay.
Donc Kodama, c'est un jeu de Daniel Solis. Alors c'est pas un français malgré le nom, c'est un américain. C'est illustré par Quanchai Moria. Donc Quanchai Moria qui a fait quelques jeux déjà, hein, qui a fait Twin Tin Bots, qui a fait Rumble in the House aussi, pour les plus connus.
Ça ressemble pas trop au style de ces jeux. J'aurais pas forcément retrouvé la patte de l'illustrateur.
Effectivement, surtout que je sais pas si tu as vu passer, mais il a illustré récemment aussi Capital Luxe.
Oui.
Qui est une coédition notamment avec Pixie Game que je vous présenterai peut-être dans une prochaine chronique Capital Luxe. Et donc c'est assez différent. C'est Kodama, c'est un jeu assez familial, donc c'est des illustrations plutôt enfantines.
En tout cas, c'est joli.
Ouais, c'est assez joli. En tout cas, bon, moi, avec Rumble in the House, il peut y avoir un peu de similitude. C'est assez mignon comme illustration. Donc, c'est édité par Capsicum Game en France. Donc, petit éditeur à qui on doit. Le plus connu, c'est Fleet Commander. Je crois ils ont fait. C'est leur plus gros jeu. Mmh. Et puis, ils ont fait l'année dernière Sigil, que j'avais bien aimé aussi, un petit jeu de cartes. Voilà. Et au départ, ça a été un Kickstarter d'un éditeur américain. Qui s'appelle Action Fast Game, je crois. C'est un Kickstarter que j'avais pas du tout vu passer,
tu
moi.
Tu nous sors encore un truc de Kickstarter?
Bah en fait, je savais pas. C'est en faisant la recherche pour ma chronique, en préparant la chronique, que j'ai découvert que le jeu était passé par Kickstarter. Moi, je l'ai pas du tout vu passer par Kickstarter. Hein. Moi, je l'ai découvert justement sur le stand de Capsicum à Orléans-Joux cette année. Je l'avais pas vu passer sur Kickstarter. Mais ça a été repéré par Capsicum et du coup édité en France par Capsicum.
Okay.
Comme ça que j'ai découvert de mon côté. Donc alors Kodama, les esprits de l'arbre, qu'est-ce que c'est? Donc dans Kodama, c'est un jeu donc de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes par joueur. Donc on va être sur du 20 à 45 minutes, on va dire, si on joue à 5, à partir de 8 ans. Donc dans Kodama, on va devoir faire pousser un arbre au travers de 3 saisons. Là, il n'y en a pas 4, puisqu'en hiver, les arbres poussent assez mal, il paraît. Donc, le jeu va se dérouler en 3 saisons.
Ah, écoute, je sais pas, dans Kanagawa, il y en avait 5, là, il n'y en a que 3, c'est le bordel.
Bah, je sais pas s'il y a des arbres en hiver dans Kanagawa.
Ah, bah, je sais pas, faudra regarder.
Donc, dans Kodama, il va y avoir 3 phases de jeu, le printemps, l'été et l'automne. Il n'y a pas d'hiver. Et donc, chacune de ces phases va se passer en 4 tours. À chacun de ces tours, en fait, on va faire pousser une branche sur notre arbre. Donc un peu à la manière de Kanagawa, on va partir en fait avec un tronc, donc avec une carte de base qui est un peu plus grande que les cartes qu'on va récupérer. Donc ça va être notre tronc et du coup à chaque tour, on va récupérer une carte. Donc là c'est un peu plus simple dans la mécanique, mais du coup c'est un peu plus sujet à l'aléatoire aussi, c'est que en fait il va y avoir une rivière de 4 cartes et en fait les joueurs vont en prendre une à chaque tour. Enfin voilà, le premier joueur va prendre une carte parmi les 4 qui sont disponibles et on va la remplacer par la suivante de la pioche. Donc le suivant aura le choix entre les 4 cartes avec celle qui a été remplacée. Il va en prendre une, on va remplacer par la suivante de la pioche. Donc il y a toujours 4 cartes disponibles.
D'accord. Pour tous les joueurs, mais c'est un système de rivière, donc tant pour une, t'en remets une, quoi.
C'est ça. Donc il y a un peu moins de gestion. Voilà, c'est un peu moins riche que Kanagawa dans la manière de prendre des cartes. Et donc on en prend une par tour. Et on vient la rajouter à notre petit arbre. Donc au fur et à mesure, on a notre arbre qui va se développer, qui va avoir de plus en plus de branches. Alors, il y a quand même quelques contraintes à respecter. Quand je pose une branche, en fait, je vais la poser sur une carte déjà existante pour rallonger la branche. Mmh. Et le tronc de base, en fait, donc notre carte de départ, il a plusieurs branches qui partent. Donc, je vais pouvoir faire partir mon arbre dans différentes directions. J'ai jamais le droit de poser une carte qui en recouvrirait plus d'une.
Ah,
c'est-à-dire que si j'ai deux cartes qui sont assez proches et que je dois poser une branche qui doit recouvrir ces deux cartes, je n'ai pas le droit.
Ah, okay.
Je dois en recouvrir qu'une seule à la fois. Mmh. Donc si après, en fait, les branches vont pas forcément dans le même sens.
Mmh.
Donc quand je vais poser les cartes, s'il y a des branches qui convergent, en fait, bah, je vais avoir du mal après à poser des cartes puisque elles vont avoir du mal à pas toucher deux cartes.
Ah, d'accord. Et c'est pas compliqué du coup en termes de géométrie de l'espace quand tu prends ta carte, genre carte prise, carte jouée, il faut que tu la poses et après t'es en misère, non, ça va?
Bah tu peux toujours la poser quelque part puisque tu as d'autres branches qui partent. Ça c'est à toi de te débrouiller. Hein. Mmh. Si tu peux pas la poser là où t'avais prévu de la poser, ben tu vas devoir la poser ailleurs.
Ouais. Voilà.
Tu feras peut-être moins de points justement. Okay. Je vais vous expliquer après, mais ça fera peut-être faire beaucoup moins de points.
Du coup, les arbres de départ, ils sont différents ou c'est les mêmes?
Alors ils sont un peu différents. Je crois qu'ils se ressemblent assez dans la géométrie en fait des mm-hmm. branches qui partent. Mais en fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est pour faire des points sur chaque carte, il va y avoir des petits éléments. En fait, des petites décorations ou des petits éléments que les yokai vont aimer. Donc il y a des lucioles, il y a des nuages, il y a des étoiles, il y a des vers de terre, il y a des fleurs et il y a des champignons. Je crois qu'il y a 6 éléments différents en fait.
D'accord.
Donc chacun sur son tronc de base va avoir un élément qui va être différent au départ. Donc soit une luciole, soit un nuage, soit un champignon. Et après sur les cartes qu'on va récupérer, il y aura un ou plusieurs de ces éléments. Ça je vais l'expliquer après pour comment scorer. Sur les contraintes aussi de pose, donc faut pas que ça superpose plus d'une carte.
Mm-hmm.
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il te conseille de mettre ton tronc au bord de la table et du coup ben les branches elles vont jamais vers le sol. Donc tu as pas le droit de dépasser
tu
en fait.
Tu fais pas des racines avec tes branches quoi.
Voilà, t'as pas le droit de faire des racines, donc t'as pas le droit d'aller trop vers le bas. Et la dernière contrainte qui est assez rigolote je trouve, c'est quand par exemple t'es 5 joueurs sur une petite table. Bah en théorie, si t'as des arbres qui se rejoignent, bah t'as pas le droit d'empiéter sur l'arbre
d'accord,
de ton
okay.
voisin.
Ah,
donc
oui.
Tu vas devoir te développer plus vers le haut ou plus vers la gauche, en fonction de la géométrie des arbres de tes voisins.
Ça peut être rigolo d'ailleurs, parce que tu peux exprès jouer
sur
une table
petite ouais,
et puis exprès aller te foutre à moitié chez quelqu'un pour
l'empêcher de se développer. Ouais.
Se développer
ouais. Donc ça marche bien quand t'es beaucoup sur une petite table. Là j'ai encore fait une partie ce matin pour me le remettre bien dans la tête.
Ouais.
On a fait une partie à deux sur une table relativement grande, donc là t'as vraiment pas de problème. Mmh. Tu fais ton arbre comme tu veux, y a personne qui vient t'embêter. Donc le mécanisme principal de scoring de ce jeu, c'est quand tu vas prendre une branche, tu vas la poser quelque part sur ton arbre, et en fait tu vas regarder les éléments qu'il y a sur cette branche, tu vas compter un point par élément qu'il y a sur la branche, et après tu vas remonter la branche précédente, tu vas remonter vers le tronc en fait, c'est-à-dire si c'est la première carte que tu scores, tu vas remonter que d'une case vers le tronc. Mais si t'as fait une grande branche, en fait, tu vas remonter vers le tronc à chaque fois que t'as des éléments identiques. C'est un peu dur à expliquer. Je vais essayer de faire une image.
Ouais, vas-y.
tu poses une carte au bout d'une branche.
Ouais.
Sur cette carte, tu vas avoir par exemple une chenille et un champignon.
Ouais.
Donc ça te fait déjà 2 points parce que sur la carte du bout, tu as 2 éléments.
D'accord.
Tu vas regarder ensuite sur la carte précédente, en remontant mmh. vers le tronc, et tu vas regarder s'il y a d'autres chenilles ou des champignons.
Tu descends vers le tronc, en fait.
Tu descends vers le tronc.
Ouais, c'est ça que j'avais pas.
S'il y a des éléments qui sont identiques, donc c'est-à-dire si sur la carte précédente tu retrouves par exemple une chenille, tu vas la compter aussi.
D'accord.
Donc sur la première carte tu as une chenille et un champignon, sur la carte suivante tu as une chenille et un nuage. Donc tu vas compter la chenille. D'accord. Et en fait, tu vas compter les suites vers le tronc qui sont continues. Et tu vas compter un point par élément de ces deux types qui va être continu jusqu'au tronc. Par exemple, donc j'ai ma carte, j'ai un chenille, un champignon. Sur la carte suivante, si j'ai une chenille, un champignon, je vais les recompter. Donc ça me fera 4 points. Si sur la carte suivante, j'ai qu'une chenille, j'ai pas de champignon, ça va me faire 5 points. Si sur sur le tronc, après, j'ai une chenille, je vais encore compter un point. En fait, voilà.
Ouais. En revanche, si t'as un champignon, mais que t'as pas la chenille, tu recomptes pas le champignon, t'as perdu la succession.
Oui, en fait, les éléments sont indépendants. Tu vas compter la succession de champignons et la succession de chenilles.
C'est ça, ouais. Mais faut que ça se suive. Enfin, faut qu'il y en ait à chaque carte.
À chaque carte. Mais par contre, enfin, tu comptes pas, les ensembles, chenilles, champignons. C'est vraiment chaque élément, tu vas remonter jusqu'au tronc pour essayer de voir combien t'en as de suite. Si c'est interrompu et que t'en as une après, tu comptes plus. C'est vraiment
c'est ça,
les éléments successifs.
Ouais, si ça s'interrompt, tu comptes plus.
C'est ça. Tu comptes plus l'élément en question.
Si t'as chenille, pas de chenille et puis chenille, t'as deux quoi.
C'est ça. T'as deux en chenille.
C'est ça.
T'as deux en chenille. Après, tu comptes un autre élément que t'as sur la carte. Et donc, tu fais au moins toujours un point par élément, parce que si t'as chenille, nuage, fleur et étoile, ça te fera quoi qu'il arrive 4 points, puisque tu les as tous sur la première carte. Après, si en remontant vers le tronc tu n'as plus ces éléments, tu compteras pas d'autres points, mais tu auras au moins 4 points. Donc ça, c'est le mécanisme principal de scoring. Et il y a une contrainte de plus pour poser ta carte. Quand tu poses une carte et que tu comptes ces points-là, parce qu'en fait tu vas compter les points à chaque fois que tu poses une carte. Je pose une carte, je compte. Je pose une autre carte, je vais compter. Selon cette règle-là, tu comptes à chaque fois que tu poses une carte. Et l'autre contrainte, en fait, c'est que tu peux pas poser une carte qui te rapporterait plus de 10 points en comptant comme ça.
Ah oui, d'accord.
Pour éviter de faire, si tu veux, une monobranche avec des chenilles tout le long, enfin, qui serait pas très intéressant. Il faut que tu commences plusieurs branches. Enfin, tu vas être obligé. Il y a des objectifs aussi qui vont te forcer à faire d'autres branches. Mais voilà. Donc les règles, c'est t'as pas le droit d'empiéter sur les autres, t'as pas le droit d'aller vers le bas, t'as pas le droit de chevaucher plus de deux cartes que t'as déjà posées, et si tu poses une carte et que tu scores, elle n'a pas le droit de te rapporter plus de 10 points.
D'accord. Et du coup, voilà. si tu prends une carte et qu'elle est censée te rapporter plus de 10 points, tu dois la mettre ailleurs, quoi.
C'est ça. Si tu la places à un endroit et que elle te rapporte plus de 10 points à cet endroit-là, tu n'as pas le droit de la poser. T'es obligé de la poser ailleurs. Mmh. Bon, ça, tu le regardes généralement avant de prendre la carte, t'arrives à le compter assez facilement, finalement.
C'est pas un peu fort calculatoire, du coup, parce que du coup, t'es pas tout le temps en train de regarder la carte du milieu, laquelle est la meilleure, et je compte 1, 2, 3, 4, celle-là fait 4, celle-là fait 8, celle-là fait 6. Non?
Alors, s'il n'y avait que ça, ce serait assez calculatoire, effectivement, et donc tu prendrais la carte qui, à chaque fois, te rapporte le plus de points quand tu la poses.
Ouais, d'accord.
Mais il y a d'autres petits éléments qui vont un peu t'inciter à faire d'autres choses avec ton arbre. En fait, t'as deux éléments supplémentaires. Déjà, tu as une carte de saison, d'accord ? Donc à chaque saison, je rappelle qu'il y en avait trois, t'as un paquet de cartes par saison que tu vas mélanger, et donc tu vas avoir une carte qui va être dévoilée et qui va être active pour toute la saison. Donc une petite règle, une petite contrainte ou une petite règle supplémentaire pour cette saison particulière.
D'accord.
Donc là, par exemple, je vous lis une carte au hasard, une carte printemps. Donc là, il y a écrit « Chaque fois que vous placez une carte en contact avec votre tronc, marquez 3 points. Ouais. » Tu vois, là, ça va t'inciter à faire plusieurs...
Ça va t'inciter à faire plusieurs
départs depuis ton tronc. Mmh. Voilà. Par exemple, sur une carte... je vais prendre une carte d'une autre saison, une carte été. En fait, ça va dépendre aussi du moment, puisque l'été, c'est la saison du milieu, l'automne, la dernière saison. Donc, en fonction de la saison, tu as des effets qui sont un peu différents et qui sont dépendants un peu de la saison. Par exemple, une carte été... C'est une carte été, ouais. Une carte qui s'appelle Bourrasque. Donc pendant toute cette saison-là, donc pendant les 4 tours, je vous rappelle, il y a 4 tours par saison, placez sous la pioche toutes les cartes de l'étalage, puis reconstituez-les avec 4 cartes du dessus de la pioche. Normalement, l'étalage, donc c'est la rivière, elle reste commune entre chaque saison. Donc là, c'est une carte qui te fait en fait défausser les cartes de la saison précédente et reconstituer une nouvelle truc. Donc t'as plein de petites choses comme ça. Mmh. Donc il y a pas mal de cartes qui vont un peu faire varier les parties et faire varier les éléments, enfin les règles. Et les petits bonus ou les petites contraintes en fonction des saisons. Et tu as ensuite un deuxième élément qui est un peu l'élément le plus sympa du jeu, je trouve. C'est qu'au début de chaque partie, tu vas distribuer 4 cartes Kodama, donc les petits esprits de la forêt, t'en distribues 4 à chaque joueur. Et en fait, à la fin de la saison, chaque joueur va utiliser un Kodama. Donc il va scorer, ça c'est un mécanisme de scoring aussi, il va scorer un de ces 4 Kodama. Donc les Kodama, par exemple, y en a un qui va dire, en fait c'est en fonction de leur goût, les Kodama c'est les petits esprits, ben ils veulent des arbres qui soient, qui aient une certaine forme ou qui aient certaines caractéristiques. Donc si tu leur plais, ben tu vas faire des points. Par exemple, il y a un Kodama qui fait marquer 3 points à chaque carte qui se trouve à 2 cartes ou moins de votre tronc. Donc là t'as un arbre qui doit, par exemple,
pas s'éloigner beaucoup
du tronc. Voilà, qui doit pas trop s'éloigner du tronc. Donc ça doit te faire un arbre assez gros, mais pas très long, tu vois, il va avoir des longues branches. J'en lis un autre au hasard, hein, mais marquez 2 points pour chaque type d'élément sur la carte qui touche votre tronc. Donc là, tu vas avoir intérêt à avoir une variété de plein d'éléments différents autour de ton tronc. Parmi les nuages et les fleurs, déterminez l'élément en plus petit nombre sur votre arbre et marquez 2 points pour chaque élément de ce type. Voilà, donc tu vas avoir des cartes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que t'en as 4 dès le début de la partie. et qu'à à la fin de chaque saison, tu vas devoir en jouer une. Et donc tu vas devoir optimiser pour essayer de trouver à quel moment laquelle est la plus intéressante.
Quel est le moment le plus pertinent pour jouer telle ou telle carte, et puis essayer de construire éventuellement une stratégie sur l'ensemble de la partie pour les optimiser aussi ces cartes-là. Quoi.
Et c'est ce fil rouge-là qui va faire aussi en sorte que tu vas pas juste bêtement prendre à chaque fois la carte qui te rapporte le plus de points à l'instant T où tu la poses, mais que tu vas réfléchir à une stratégie un peu plus sur le long terme, un peu plus fil rouge par rapport à ces cartes Konama.
Attends, ces cartes-là, t'en as 4 au début, tu vas en jouer 3 en fait.
Et t'en joues 3, c'est ça.
Oui, c'est ça.
T'en joues 3. T'en as 4 au début, donc il y en a une que tu joueras pas. Parce qu'il peut y en avoir des un peu plus compliquées à jouer, ou par rapport aux autres, elles peuvent rapporter beaucoup moins de points, enfin voilà.
Ok, ouais, d'accord.
Voilà, c'est tout le jeu, donc il y a les 3 saisons qui jouent comme ça, 4 tours par saison, donc on va poser 12 cartes branches en fait autour de la partie, on va jouer 3 Kodama, et à chaque saison il y a une petite règle supplémentaire qui vient s'ajouter avec les petites cartes saison. Donc le jeu est assez simple.
Ouais, son originalité principale c'est quand même la disposition des cartes, et puis
oui c'est ça.
Ouais, c'est essentiellement ça quand même, parce qu'après bon, t'as un système de rivière, c'est pas non plus folichon. Le système de score, bon, j'imagine qu'il a déjà, j'ai pas à l'esprit un jeu qui utilise ça là comme ça, mais je suis persuadé qu'il y en a. Après le reste, oui, c'est des éléments imbriqués qui j'imagine marchent bien. Ouais.
Ouais. Oui, alors c'est relativement classique au niveau des mécaniques. La thématique est vraiment sympa. Enfin, moi, je l'aime beaucoup pour ce côté. Je fais pousser mon arbre, et donc à chaque partie, tu as un arbre qui ressemble pas au précédent. T'as ces petites cartes saison qui viennent un petit peu changer le déroulé de la partie. C'est vrai que sinon ce serait très mécanique, hein. S'il y avait que la partie je prends une carte, je score, ce serait beaucoup trop mécanique. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petites cartes saison et ces petites cartes Kodama qui viennent un peu agrémenter ça. Ça en fait un jeu assez léger, très fluide, assez familial, que moi j'aime bien. C'est vraiment ça révolutionne rien, hein. On est sur quelque chose qui est beaucoup moins riche que Kanagawa, quelque chose où le hasard est beaucoup plus présent aussi que sur Kanagawa, parce que forcément, comme c'est une rivière où il n'y a pas de compensation, si j'ai pas la carte que je veux, je vais en prendre plusieurs et tout ça c'est pas du tout géré. Donc effectivement, si au flop en fait, enfin si quand tu vas retourner une carte, c'est la carte qu'il fallait absolument à ton adversaire, t'as aucun moyen de contrôler ça et t'as pas de compensation pour ça. Donc t'as un hasard qui est quand même plus présent, mais du coup c'est, je pense, un peu plus accessible, un peu plus familial, enfin des petits vont pouvoir jouer.
Kodama est annoncé pour 8 ans, ouais. Je pense qu'effectivement ça doit le faire largement, voire peut-être même moins, ça se trouve.
Donc Kodama, je l'ai pas dit, mais du coup la boîte de Kodama, c'est 19€ chez Philibert. Donc c'est une boîte où il y a pas mal de cartes, hein, parce qu'il y a toutes les cartes branches, les cartes Kodama, les cartes. C'est un jeu de cartes. Après il y a un petit plateau pour compter le score qui est plutôt sympathique. Et après tu as c'est à peu près tout. T'as les troncs qui sont des cartes un peu plus grosses. Et puis t'as un petit Kodama qui représente le premier joueur. Un token qui fait une petite figurine en fait. Tu sais, t'as une base que tu viens clipser pour qu'elle tienne debout.
D'accord. Une figurine carton, quoi.
Ouais, une figurine carton, c'est ça, pour présenter le premier joueur. Donc ça, c'est 19€. Et ils ont sorti une petite extension qui coûte 3,50€, que j'ai acheté aussi.
Je voulais te demander, parce qu'effectivement, j'ai vu passer ça il y a pas longtemps sur Twitter.
Ouais. Alors, 3,50€, c'est vraiment un petit paquet de cartes. Je l'ai pris parce que pour le prix, c'était bête de s'en priver. Alors, qu'est-ce qu'elle
permet d'avoir les frais de port gratuits sur autre chose, c'est ça?
Ouais, ça peut être ça. Ça peut être le petit achat complément.
C'est les 3€ qui manquent pour avoir les frais de port gratuits.
En l'occurrence, c'était l'organizer pour Scythe, Broken Token, qui était à 50 et quelques. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, cette petite extension? Donc déjà, il y a des cartes Kodama et des cartes saison supplémentaires. Voilà, donc ça renouvelle un petit peu à ce niveau-là. Et surtout, enfin, l'intérêt, ça va être pour les gens qui veulent jouer avec des enfants un peu plus petits. Donc des enfants qui auraient 6 ans. Enfin voilà, qui sont beaucoup plus petits. En fait, il y a un système de Kodama, de mini Kodama. Donc c'est des mini Kodama. Donc c'est des ensembles de 3 Kodama qui sont déjà définis pour chaque saison. Donc l'enfant sait que, alors faut savoir lire, hein, enfin c'est le minimum requis, c'est la lecture. Mais l'enfant va savoir quel Kodama jouer à quelle saison. Tu vois, c'est donc il en a que trois déjà, il choisit pas. Il sait qu'au printemps il va jouer celui-ci, il sait que à l'été il va jouer celui-ci, à l'automne il va jouer celui-ci. Donc ils sont très orientés. Et c'est des Kodama qui vont tous les trois scorer sur les mêmes éléments. Donc par exemple, tu vas avoir un Kodama qui va scorer toujours sur les chenilles et les champignons, un autre qui va scorer toujours sur les fleurs et les étoiles. Enfin voilà, c'est beaucoup plus orienté. Et ça permet un peu
des éléments qui s'imbriquent bien, quoi, en fait, qui
voilà,
sont déjà
qui vont
configurés
bien ensemble,
pour que ça marche bien. Hein.
C'est ça. Et donc qui vont permettre à des enfants qui vont rendre le jeu accessible sur ce côté qui était le côté c'est un peu la partie la plus stratégique.
Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé effectivement quand je t'ai dit que ça doit même être accessible plus petit, c'est vrai que j'avais oublié le paramètre
le choix de
programmation.
Ouais, il y a un peu de programmation. Donc là ça rend la partie programmation beaucoup plus simple en fait.
Et forcément, il y en a plus.
C'est appliqué, mais ça permet en fait, c'est ce qui est bien, c'est que un adulte joue avec le système normal de Kodama et avec l'enfant qui va jouer avec ses mini Kodama. Du coup voilà, c'est mixable, quoi. C'est pas soit tu joues avec les mini, soit tu joues avec les Kodama, non. C'est intégrable dans une partie normale.
T'as pas eu l'occasion d'essayer justement avec un petit de ton entourage? Non,
j'ai pas encore eu l'occasion. J'aurai sûrement l'occasion là pendant les fêtes, mais là j'ai pas pu essayer avec les mini Kodama encore.
D'accord.
Mais j'ai lu les effets, en fait c'est des effets qui sont assez simples par rapport à d'autres Kodama, c'est beaucoup plus facile à comprendre et c'est toujours sur des éléments identiques d'une saison à l'autre. Donc le petit va vraiment viser les champignons, les chenilles, tu vois, il va pas avoir à réfléchir justement à l'optimisation entre différents éléments. Donc je pense que c'est plutôt après
non,
au niveau du score,
je sais ça, pas ça trop doit marcher hein, je pense hein. Effectivement, ouais. C'était oui, c'est ce que j'avais oublié effectivement en disant ça doit même être accessible en dessous de 8 ans, mais oui. J'avais oublié cet aspect-là, mais du coup s'il l'enlève, oui, peut-être pas pour tous les enfants à partir de 6 ans, mais peut-être 7 ans quoi. Hein.
Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est à partir je sais que les âges, ça dépend beaucoup des enfants,
oui,
et de comment, s'ils jouent beaucoup, etc.
Bah, les enfants de ceux qui nous écoutent, c'est bon, ça passera.
Ouais, généralement, ils savent jouer. Mais après, la seule contrainte, c'est la lecture, quoi. Mais bon, 6 ans, ça commence à déchiffrer les cartes, généralement.
Et de toute façon, tu peux jouer les gamins, enfin, les enfants, ils peuvent jouer face visible avec cela, puisque il n'y a pas trop de blocage et tout. Donc,
Oui, ils peuvent tout à fait jouer face visible, oui. Il n'y a pas de souci. Voilà, alors les défauts, parce que c'est un jeu qui est très agréable, mais qui a, à mon sens, quelques défauts quand même. Le premier, c'est le côté aléatoire, enfin, qui est vraiment une rivière. Le système de rivière est un peu trop bateau, on va dire. Donc, t'as vraiment ce côté aléatoire au niveau de la rivière et de la prise de carte.
Dire que l'aléatoire c'est un défaut, c'est toujours un peu délicat. C'est un défaut pour certains joueurs, mais pour la catégorie de joueurs auxquels il s'adresse. Si on replace 8 ans, c'est pas un défaut, il en faut en fait. Parce que sinon, s'il y en a pas à 8 ans, tu joues un gamin,
non, je suis d'accord.
Tu joues contre un gamin de 8 ans, alors à moins que ce soit effectivement un fils de gamer avec une fille de gamer,
qui te mette la tolée,
et qu'il soit capable de te massacrer, sinon en fait il a moins de chances
d'intérêt,
de gagner, quoi.
Non, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc il y a du hasard en fait qui n'est pas, il y a du hasard qui n'est pas contrôlable. Par exemple sur Kanagawa, il y a du hasard mais qui est compensé par le fait de prendre plusieurs cartes.
Et comme tu l'expliquais si bien tout à l'heure.
Voilà. Et le deuxième défaut que je lui trouve, c'est au niveau des Kodama justement, qui sont pas toujours très équilibrés. T'as des Kodama qui vont te permettre assez facilement d'atteindre une vingtaine de points. Et d'autres, avec tous les efforts du monde, tu vas péniblement atteindre à 10 points.
Ouais, c'est ce que je me demandais quand tu m'en as cité deux tout à l'heure. J'avais l'impression effectivement que je sais plus ce que c'était, mais le deuxième m'avait l'air vachement moins intéressant.
Ouais. Donc les Kodama sont pas tous équilibrés. Alors ça se lisse un peu du fait que tu en pioches 4 pardon, et que tu vas en jouer que 3. Donc t'en as toujours qui sont un peu mieux que d'autres et toujours certains que tu vas scorer plus facilement que d'autres. Ouais. En fait sur les trois t'en as qui vont te faire des dizaines de points et tu vas réussir à en faire à 16-18 points.
Ouais,
c'est... Ouais. Mais voilà, et si tu tombes vraiment sur 4 Kodama ou 3 Kodama qui sont faciles et qui vont te faire facilement beaucoup de points, et que quelqu'un d'autre tombe, ça aussi c'est un petit peu le côté aléatoire, mais qui tombe sur des Kodama qui vont être beaucoup plus difficiles à scorer et qui vont faire potentiellement moins de points. Voilà, tu peux avoir un petit déséquilibre qui se crée là.
Puis tu peux avoir des synergies qui marchent mieux que d'autres aussi, j'imagine.
Oui, 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 t'as des ensembles, effectivement, ouais. Quand ça te demande de scorer sur tel élément et que t'en as plusieurs qui te demandent de scorer sur le même élément.
C'est un peu plus facile, du coup. Ouais.
Mais bon, après, okay. Voilà, c'est un jeu que j'aime bien, qui est vraiment facile à sortir aussi, qui est très rapidement expliqué. Qui est très agréable visuellement, qui est voilà le fait de faire son arme, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est familial, voilà, ça se joue à partir de 8 ans voire 6 ans si on a la petite extension. Mmh. Et ça plaît beaucoup. C'est un jeu par contre qui je pense s'essouffle peut-être un peu plus vite que par rapport à Kanagawa, du coup le côté un peu plus linéaire. Mmh. Donc je pense qu'au bout de quand t'as fait 10-15 parties, je pense que t'as moins l'envie d'y retourner. Mmh. T'as toujours l'aspect visuel qui est plaisant, mais je pense que t'as moins le côté allez, on en refait une. Voilà, c'est peut-être moins addictif, mais en tout cas, c'est très sympathique. Mmh. C'est plutôt efficace, c'est familial, simple.
Ouais, puis ça peut aussi être, je pense, un bon gateway game pour les amateurs de manga type effectivement Miyazaki.
Type Miyazaki, ouais. Ouais.
Ouais, c'est sympa.
Ouais, carrément, ça c'est très bien restitué.
Mais c'est un jeu, j'avoue, j'avais voulu l'essayer, j'ai pas eu l'occasion. À Bruxelles Game Festival, il était présenté, je crois, mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Je crois pas qu'il était à Essen. Je suis pas sûr, mais enfin, je suis pas tombé dessus. Je me demandais justement, j'avais une petite appréhension sur le sur-effet visuel, en fait. J'avais parfaitement que ce bel aspect visuel et cette belle idée de créer un arbre comme ça avec les cartes qui est très visuel. J'avais peur que derrière ça il y ait pas grand chose, en fait.
Ça sent un peu creux, voilà. Ouais.
Donc du coup je comprends, si c'est un jeu aussi qui s'adresse à 8 ans, c'est normal non plus qu'il y ait pas non plus c'est normal qu'il y ait pas une dimension stratégique non plus énorme. Maintenant, ça me paraît pas inintéressant.
Non, c'est pas inintéressant du tout, hein. C'est des mécanismes assez simples finalement, mais qui sont plutôt bien imbriqués et qui avec l'effet visuel sont vraiment vraiment mis en abîme, on va dire, enfin sont...
Ouais, je pense que tu dois avoir moyen, si t'as fait un bel arbre à la fin, un peu homogène et tout, tu dois avoir un petit effet waouh quand même.
Ouais, complètement.
Un peu comme dans Kanagawa, du coup. C'est marrant, on a une thématique un peu comme ça aujourd'hui.
Et puis quand t'as perdu et que ton adversaire a fait un arbre un peu monobranche avec
peu moche,
t'as perdu, mais ton arbre il est tout difforme.
C'est une petite compensation quand même d'avoir fait un truc un peu joli.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ok, bon bah voilà. Bon.
Voilà, bah je rappelle la fiche signalétique. Donc Kodama, un jeu de Daniel Solis, est illustré par Quanshai Moria, édité en français par Capsicum Games. Donc de 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans ou 6 ans si on a pris la petite extension en plus avec les mini Kodama, et pour des durées de partie d'environ 10 minutes par joueur.
Bon, bah merci. Puis du coup, je te remercie d'avoir bien pris soin, d'avoir choisi un jeu avec un nom d'illustrateur pas facile.
Un peu chiant, ouais, pas facile. C'était mon tour.
C'était ton tour.
Je l'ai fait deux
merci.
Fois de suite au début, mais prochaine fois, c'est pour toi.
Ok, bah je vais voir. Bon, bah voilà, bah, je pense qu'on peut dire que c'est terminé pour ce nouveau numéro des Jeux du Mois. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des remarques dans les commentaires. On a eu dernièrement des remarques sur le... Effectivement, on a changé de matériel, du coup, on a eu peut-être des petits soucis de réglage. Alors, on a fait une petite séance avant, là, pour essayer de voir.
Ouais.
Honnêtement, c'est pas simple, hein, c'est pas très simple, parce qu'on a des gens qui nous disent que, grosso modo, le son attaque un peu fort, d'autres qui nous disent que, oui, mais le son est pas assez fort, alors... Et voilà, c'est un peu compliqué de trouver le réglage parfait. Je pense qu'on le trouvera pas. On va essayer de trouver un bon compromis, en tout cas.
Ouais. Surtout qu'on n'est pas des professionnels du son, loin de là. Donc,
voilà. Si jamais, parmi vous, un professionnel du son veut nous aider, on est tout disposé à l'écouter. Voilà. On va essayer de, voilà, on a fait des essais encore différents de micro. On va voir si c'est mieux comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour là-dessus. On vous dit au mois prochain.
Bah oui, avec plaisir.
Et d'ici là,
jouez bien.